Chapitre 13. Incitation à servir d'autres dieux. Des signes et des prodiges de mensonges. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songes, et qu'il te donne un signe ou un miracle, et que le signe arrive, ou le miracle dont il t'avait parlé lorsqu'il disait « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu n'as point connus, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni ce songeur de songes, car l'Éternel, votre Dieu, vous éprouve, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous marcherez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, et vous garderez ses commandements, et vous écouterez sa voix, et vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Et ce prophète ou ce songeur de songes sera mis à mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a racheté de la maison de servitude, afin de te pousser hors de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a commandé de marcher, et tu ôteras le mal du milieu de toi. Versets 1 à 5. Dieu prévoit ici des cas de fausses doctrines et de fausses influences religieuses. Nous savons tous combien le cœur humain se laisse facilement séduire par toutes sortes de signes ou de miracles, surtout lorsque ces choses sont en rapport avec la religion. Cela s'est vu non seulement en Israël, mais partout et dans tous les temps. Tout ce qui est surnaturel ou qui semble s'élever au-dessus des lois ordinaires de la nature agit toujours fortement sur l'esprit humain. Un prophète s'élevant du milieu du peuple et accompagnant sa doctrine de miracles, de signes et de prodiges était sûr d'être reçu et écouté et d'acquérir de l'influence. C'est de cette manière que Satan a travaillé dans tous les temps, et il continuera avec succès jusqu'à la fin pour tromper et entraîner à leur destruction éternelle ceux qui ne veulent pas recevoir les précieuses vérités de l'Évangile. Le mystère d'iniquité, qui a travaillé pendant près de 20 siècles dans l'Église professante, parviendra à son apogée en la personne de l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue est selon l'opération de Satan en toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges afin que tout cela soit jugé qui n'ont pas cru la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice. 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 12. Dans le chapitre 24 de Matthieu, le Seigneur met aussi ses disciples en garde contre cette même influence. Alors, si quelqu'un vous dit « Voici, le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, de manière à séduire si possible même les élus. « Voici, je vous l'ai dit à l'avance. » Matthieu 24, versets 23 à 25. Nous voyons encore au chapitre 13 de l'Apocalypse la seconde bête montant de la terre, le faux prophète, l'Antichrist, faisant de grands miracles, en sorte que même elle fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qu'il lui fut donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Apocalypse 13, versets 13 et 14. Chacun de ces trois passages de l'Écriture se rapporte à des événements qui auront lieu après que l'Église aura été enlevée de ce monde. Notre but, en citant ces versets, est de faire voir jusqu'où la puissance de Satan peut aller quant aux signes et aux miracles pour séduire et détourner de la vérité, et en même temps de montrer la seule sauvegarde qui existe contre la puissance de tromperie de l'ennemi. Le cœur humain n'a absolument aucune force pour résister à l'influence des signes et des miracles faits pour soutenir les erreurs les plus monstrueuses. La seule chose qui puisse fortifier notre âme et la rendre capable de résister au diable et à toutes ses tromperies, c'est la parole de Dieu. Posséder ce précieux trésor dans notre cœur, voilà le secret divin pour être préservé de toute erreur. Dans le passage de la seconde épître aux Thessaloniciens que nous avons cité, nous voyons que la raison pour laquelle le monde sera séduit par les signes et les prodiges de mensonges de l'Antéchrist est qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est l'amour de la vérité qui garde de l'erreur, quelque persuasive et fascinante qu'elle soit, soutenue même par des signes et des miracles. L'instruction, les facultés intellectuelles, la science, tout cela est impuissant en face des machinations et des ruses de Satan. La plus haute intelligence humaine devient facilement la proie des ruses du serpent. Mais tous les moyens que Satan peut employer sont sans aucune force sur un cœur gouverné par l'amour de la vérité. Même un petit enfant qui connaît, croit et aime la vérité est tout particulièrement protégé contre la puissance séductrice du méchant. Si un ange même venait à descendre du ciel pour prêcher quelque doctrine contraire à ce que la parole de Dieu nous enseigne, Dieu même nous autoriserait à prononcer l'anathème sur lui, sans discussion ou argument quelconque. Voir Galates 1, verset 8. Nous ne sommes pas appelés à analyser les fausses doctrines, ni à considérer les preuves avancées en leur faveur. Nous rejetons fermement les unes et les autres, simplement parce que nous avons la certitude de la vérité dans le cœur et que nous l'aimons. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni ce songeur de songes, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. C'était là le point important pour les Israélites, et il en est de même pour nous. Pour eux comme pour nous, la vraie sécurité morale est d'avoir le cœur fortifié par l'amour de la vérité, qui n'est qu'une autre forme de l'amour de Dieu. L'Israélite qui aimait l'Éternel de tout son cœur et de toute son âme avait, pour tous les faux prophètes qui pouvaient surgir, cette réponse toute prête : Dieu m'a dit, tu n'écouteras pas. Lorsqu'on ne prête pas l'oreille à l'ennemi, il n'atteindra pas le cœur. Les brebis suivent le berger, car elles connaissent sa voix, mais elles ne suivront point un étranger, en dépit des signes et des miracles, mais elles s'enfuiront loin de lui. Pourquoi ? Est-ce parce qu'elles sont capables de discuter et d'analyser ? Non, mais parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Voir Jean 10, versets 4 et 5. Tout ceci est bien propre à consoler et à encourager les brebis du troupeau de Christ. En entendant la voix de leur fidèle et bon berger, elles peuvent se rassembler autour de lui et trouver en sa présence un vrai repos et une sécurité parfaite. Il les fait reposer dans de gras pâturages et les conduit le long des eaux paisibles de son amour. L'état de faiblesse dans lequel elles se trouvent n'est pas un obstacle au repos et à la bénédiction. Tout au contraire, cette faiblesse même les pousse à chercher un refuge dans les bras du Tout-Puissant. Lorsqu'elle est reconnue, elle est moins à redouter qu'une force illusoire, puisée dans une vaine confiance en notre propre sagesse, notre intelligence et nos connaissances scripturaires. Ayons soin seulement de nous tenir bien près du Seigneur dans le sentiment de notre propre faiblesse, de notre néant. Serrons sa précieuse parole dans nos cœurs. Quelle soit la nourriture journalière de nos âmes, le pain vivant de l'homme intérieur. Incitation au mal par un être cher. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme de ton cœur, ou ton ami, qui t'est comme ton âme, t'incite en secret, disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu n'as pas connus, toi ni tes pères, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, près de toi ou loin de toi, d'un bout de la terre à l'autre bout de la terre. Tu ne t'accorderas pas avec lui, et tu ne l'écouteras pas, et ton œil ne l'épargnera pas, et tu n'auras pas pitié de lui, et tu ne le cacheras pas, mais tu le tueras certainement. Ta main sera la première contre lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite, et tu l'assommeras de pierres, et il mourra, car il a cherché à t'entraîner loin de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et tout Israël l'entendra et craindra, et ne fera plus une pareille méchante action au milieu de toi. » Versets 6 à 11. Nous avons ici quelque chose de tout à fait différent du faux prophète ou du songeur de songes. Beaucoup de ceux qui résisteraient à l'influence de ceux-ci céderont à la puissance attrayante et séductrice des affections naturelles, tant il est difficile d'y résister. Un œil simple et un véritable engagement du cœur pour le Seigneur nous sont indispensables pour agir fidèlement vis-à-vis de ceux qui nous sont liés par de tendres affections. Résister à un prophète avec lequel on n'a aucune relation personnelle est certainement plus facile que d'agir avec une ferme décision envers une épouse bien-aimée, un cher frère ou un intime ami. Mais quand les droits de Dieu, de Christ, de la vérité sont en jeu, il ne doit pas y avoir d'hésitation. Si quelqu'un cherche à se servir des liens d'affection pour nous détourner de l'obéissance à Christ, nous devons lui résister avec une entière fermeté. Lui-même a dit « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Luc 14, verset 26. Il est très important pour nous de bien comprendre ce côté de la vérité et de lui donner la place qui lui appartient. Les deux passages de Luc 14, verset 26 et de Deutéronome 13, verset 8 à 10 ne signifient assurément pas que nous devons être sans affection naturelle, ce qui est un caractère particulier de l'apostasie des derniers jours. Voir 2 Timothée 3, verset 2. Dieu lui-même a établi nos relations naturelles et à chacune d'elles répondent des affections qui doivent avoir leur cours en harmonie avec la pensée de Dieu. Le christianisme introduit une puissance par laquelle les responsabilités qui se rattachent à ces relations sont comprises et accomplies à la gloire de Dieu. De plus, le Saint-Esprit donne dans les épîtres des instructions détaillées aux maris, aux femmes, aux parents, aux enfants, aux maîtres et aux serviteurs. Il met ainsi la sanction divine sur ces relations et sur les affections qui en découlent. En contemplant la vie du seul homme parfait qui ait jamais marché sur notre terre, nous pouvons voir de quelle manière divine il répondait à ce que réclamait son double titre d'homme et d'envoyé de Dieu. Il pouvait dire à sa mère « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme ?» et plus tard, au moment convenable, recommander cette mère avec tendresse aux soins du disciple qu'il aimait. Comme aussi il pouvait dire à ses parents « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père ?» et en même temps leur être soumis. Différence entre les dispensations de la loi et de la grâce. Quelqu'un se demandera peut-être comment concilier le commandement de Deutéronome 13, versets 9 et 10, avec un Dieu d'amour et avec la grâce et la débonnaireté déployées dans le Nouveau Testament. À ce sujet, il est très important de faire la différence entre les deux dispensations de la loi et de la grâce. Le grand principe caractéristique de la dispensation juive était la justice et celui du christianisme, la grâce. Il était parfaitement juste et en harmonie avec les pensées de Dieu qu'Israël tue ses ennemis. L'Éternel le lui avait commandé, comme aussi d'exécuter le jugement, même jusqu'à la mort, envers toute personne qui aurait cherché à en attirer d'autres après des faux dieux. Agir ainsi était tout à fait en accord avec les grands principes de gouvernement et de loi sous lesquels les Israélites étaient placés. Nous voyons le même principe dans tout l'Ancien Testament. Le gouvernement de Dieu en Israël et son gouvernement dans le monde, en rapport avec Israël, étaient sur le principe de la justice. Et dans l'avenir, il en sera de même. Je susciterai à David un germe juste, et il règnera en roi et prospérera, et exercera le jugement et la justice dans le pays. Jérémie 23, verset 5. Dans le christianisme, nous voyons tout autre chose. Le Nouveau Testament, les enseignements et les actes du Fils de Dieu nous placent sur un terrain entièrement nouveau, dans une atmosphère toute de grâce. Voyons par exemple un ou deux passages de ce qui est appelé le sermon sur la montagne. Vous avez ouï qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi je vous dis, ne résistez pas au mal, mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et à celui qui veut plaider contre toi et t'ôter ta tunique, laisse-lui encore le manteau. Et si quelqu'un veut te contraindre de faire un mille, vas en deux avec lui. Donne à qui te demande, et ne te détourne pas de qui veut emprunter de toi. Vous avez ouï qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, versets 38 à 48. Tel était l'enseignement de Christ. Et comment agissait-il lui-même? Faisait-il valoir ses droits? Recourait-il à la loi? Se vengeait-il ou rendait-il l'appareil? Ses pauvres disciples, dans un oubli total de sa manière d'agir, lui proposent d'appeler le jugement divin sur un village de Samaritains qui a refusé de le recevoir. Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume, comme aussi fit Élie ? Quelle est alors sa réponse ? Se tournant, il les censura fortement et dit : Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et ils s'en allèrent à un autre village. Luc 9, versets 54 à 56. Cet esprit était tout à fait en accord avec la dispensation dont Élie était le représentant de faire descendre le feu du ciel afin de consumer les hommes envoyés par un roi impie pour arrêter le prophète. Mais notre Seigneur était le parfait et divin représentant d'une toute autre dispensation. Du commencement à la fin, sa vie a été une vie de renoncement et de soumission. Jamais il n'a fait valoir ses droits. Le Seigneur Jésus dit à Pilate : Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Jean 18, verset 36. Remarquez le mot maintenant. Bientôt, les royaumes de ce monde deviendront ceux de notre Seigneur. Mais maintenant, il est rejeté et tous ceux qui lui appartiennent sont appelés à être rejetés comme lui, à le suivre hors du camp et à marcher comme des pèlerins et des étrangers ici-bas, en attendant le moment où il viendra pour les prendre à lui. Le but de Dieu n'est pas de christianiser le monde, mais d'appeler son peuple hors du monde, pour être un peuple céleste, gouverné par des principes célestes, formé pour un but céleste et réjoui par une espérance céleste. Si nous n'avons pas compris cela, si nous n'avons pas saisi la vérité quant à l'appel et à la marche de l'Église, il y aura de graves erreurs dans notre œuvre, notre marche et notre service. Nous ferons un faux usage de l'Ancien Testament, non seulement quant au sujet prophétique, mais dans ce qui se rapporte à toute notre marche pratique. Quelle perte immense font ceux qui ne comprennent pas la vocation et la position de l'Église. Son union vivante avec un Christ rejeté, ressuscité et glorifié. Dieu agit maintenant en grâce envers le monde, et nous sommes appelés à faire de même. Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants, et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Voilà notre modèle. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de notre Père, à l'imiter. Il ne place pas le monde sous la loi. Il ne maintient pas ses droits avec la main forte du pouvoir. Bientôt il le fera, mais maintenant est le jour de grâce. Il offre son salut et ses bénédictions à ceux qui sont caractérisés par l'inimitié et la rébellion contre lui. En relation avec les versets 9 et 10 de Deutéronome 13, nous pouvons bien dire que l'opposition à l'idolâtrie et la séparation d'avec le mal sont aussi nécessaires pour nous que pour Israël autrefois. Mais elle ne se déploie pas de la même manière. L'Église est appelée impérativement à rejeter le mal et ceux qui le commettent, mais pas de la même manière qu'Israël. Elle n'a pas à lapider les idolâtres et les blasphémateurs, ni à brûler les sorciers. L'Église n'est pas appelée à se servir de l'épée. Cela lui est positivement défendu. Ce serait un démenti à son caractère et à sa mission. Lorsque Pierre, dans son zèle bien intentionné mais peu intelligent, tira l'épée pour défendre son maître, celui-ci le reprit par ses paroles et l'enseigna par son geste. Il lui dit : Remets ton épée en son lieu, car tous ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée. Matthieu 26, verset 52. Ainsi, ayant réprimandé son disciple, il répara sa faute en guérissant l'oreille que Pierre avait coupée. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. L'Église professante s'est complètement fourvoyée quant à cette grande et importante question. Elle s'est unie au monde et a cherché à soutenir la cause de Christ au moyen d'actions mondaines et charnelles. Dans son ignorance, elle a essayé de maintenir la foi chrétienne tout en la reniant d'une manière honteuse dans la pratique. Des hérétiques placés par ses ordres sur le bûcher, quelle horrible tâche dans les pages de l'histoire de l'Église. En vérité, la fausse notion que l'Église est appelée à prendre la place d'Israël et à agir d'après ses principes a eu de terribles conséquences. Une ville entière tombant dans l'idolâtrie. Si dans l'une de tes villes que l'Éternel ton Dieu te donne pour y habiter, tu entends dire « Des hommes, fils de Bélial, sont sortis du milieu de toi et ont incité les habitants de leur ville, disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que vous n'avez pas connus. » Alors tu rechercheras, et tu t'informeras, et tu t'enquéreras bien, et si c'est la vérité, si la chose est établie, si cette abomination a été commise au milieu de toi, tu frapperas certainement par le tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la détruiras entièrement et tout ce qui y sera, et toutes ses bêtes, par le tranchant de l'épée. Et tout son butin, tu le rassembleras au milieu de sa place, et tu brûleras tout entier au feu la ville et tout son butin, à l'Éternel ton Dieu. Et elle sera un monceau perpétuel, elle ne sera plus rebâtie. Et il ne s'attachera rien de cet anathème à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, et qu'il te fasse miséricorde, et ait compassion de toi, et qu'il te multiplie comme il a juré à tes pères, quand tu écouteras la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour garder tous ses commandements que je te commande aujourd'hui, afin de pratiquer ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Versets 12 à 18. L'instruction solennelle de ce passage est basée sur une vérité de la plus haute importance, celle de l'unité nationale d'Israël. Voilà qu'un mal très grave s'est produit dans l'une des cités du pays. Une tentative a été faite de détourner le peuple du seul Dieu vivant et vrai. C'est quelque chose qui atteint le fondement même de l'existence nationale d'Israël. La question se pose alors, toutes les autres villes du pays sont-elles concernées par ce mal? Oui, certainement, à cause de l'unité de la nation. Les villes et les tribus n'étaient pas indépendantes les unes des autres. Elles étaient unies ensemble par un lien sacré. Et cette unité avait son centre dans le lieu où se trouvait la présence de Dieu. Les 12 pains sur la table d'or dans le sanctuaire formaient le beau type de cette unité, et tout vrai Israélite la reconnaissait et s'en réjouissait. Les 12 pierres dans le Jourdain, les 12 pierres au bord de ce fleuve, les 12 pierres des lits au mont Carmel, toutes ont représenté la même grande vérité, l'unité indissoluble des 12 tribus d'Israël. Le roi Ézéchias reconnut cette vérité lorsqu'il ordonna l'Holocauste et le sacrifice pour le péché pour tout Israël. Deux Chroniques 29, verset 24. Le fidèle Josias agit aussi d'après cette vérité lorsqu'il ordonna une réforme dans toutes les contrées qui appartenaient aux fils d'Israël. Deux Chroniques 34, verset 33. Paul, dans son discours devant le roi Agrippa, rend témoignage à la même vérité quand il parle de l'espérance à laquelle nos 12 tribus, en servant Dieu sans relâche nuit et jour, espèrent parvenir. Acte 26, verset 7. En anticipant le glorieux avenir, nous voyons cette même vérité briller d'un éclat céleste dans le 7e chapitre de l'Apocalypse, où les 12 tribus sont scellées et réservées pour le repos, la bénédiction et la gloire, en compagnie d'une foule innombrable d'entre les nations. Et finalement, dans le 20e chapitre de l'Apocalypse, nous voyons les noms des 12 tribus écrits sur les portes de la Sainte Cité, siège et centre de la gloire de Dieu et de l'agneau. Ainsi, depuis la table d'or du sanctuaire jusqu'à la cité d'or descendant du ciel d'auprès de Dieu, nous avons une chaîne merveilleuse de preuves évidentes de cette grande vérité, l'unité indissoluble des 12 tribus d'Israël. Élie, Ézéchias, Josias ou l'apôtre Paul ont pu voir cette unité par la foi dans des époques où, extérieurement, elle était bien peu visible. En portant leur regard dans le sanctuaire, ils pouvaient voir les 12 pains, signifiant à la fois que chaque tribu était distincte et qu'elle formait cependant une unité parfaite. La vérité de Dieu doit subsister à toujours. L'unité d'Israël se voyait dans le passé et sera vue à l'avenir, et quoi qu'elle soit invisible maintenant, la foi croit et maintient cette vérité en face de toutes les influences contraires. Voyons de plus près l'aspect pratique de ce qui nous est présenté dans les derniers versets de Deutéronome 13. Le bruit se répand dans une ville située tout au nord du pays d'Israël qu'une erreur grave est enseignée dans une ville du sud. Erreur pernicieuse tendant à détourner ses habitants du vrai Dieu. qu'y a-t-il à faire? Alors tu rechercheras, et tu t'informeras, et tu t'enquerreras bien. Verset 14. Quelques-uns des habitants de la ville auraient pu dire : Que nous importe cette erreur enseignée si loin de nous ? Grâce à Dieu, ce mal n'est pas au milieu de nous. C'est une affaire entièrement locale. Chaque ville a sa propre responsabilité. Nous ne pouvons pas perdre notre temps à examiner chaque erreur enseignée dans le pays. Si quelqu'un vient ici pour enseigner l'erreur, nous lui fermerons nos portes. Notre responsabilité ne va pas au-delà. Quelle aurait été la réponse d'un Israélite fidèle à ces arguments? Il aurait dit que raisonner ainsi est simplement renier l'unité d'Israël, et que si chaque tribu veut se placer sur un terrain indépendant, le souverain sacrificateur n'a plus qu'à ôter les 12 pains de dessus la table d'or qui est devant l'Éternel. Un Israélite fidèle devait se sentir affecté par l'erreur se développant dans une ville quelconque et ne pouvait conserver une froide indifférence ou une coupable neutralité. Il était enveloppé dans ce mal et ses conséquences jusqu'à ce qu'il s'en purifie en le jugeant avec décision et sévérité. L'unité du corps de Christ. Et si tout cela était vrai pour Israël, à combien plus forte raison pour l'Église? Là où il s'agit de Christ, soyons sûrs que tout ce qui ressemble à de l'indifférence est haïssable aux yeux de Dieu. Si des doctrines portant atteinte à la gloire de sa personne ou à l'efficacité de son œuvre sont enseignées, nous devons les rejeter fermement. L'indifférence ou la neutralité dans tout ce qui touche à la personne de Christ est un crime de haute trahison. Nous devrions sentir profondément toute atteinte à ce qui concerne la gloire, l'honneur et la cause de celui à qui nous devons tout. Lui-même a mis de côté sa gloire pour venir dans ce pauvre monde, mourir sur la croix d'une mort ignominieuse, pour nous sauver des flammes éternelles. Pourrions-nous être indifférents à son égard, rester neutres quant à ce qui le concerne? L'honneur et la gloire de Christ doivent nous tenir plus à cœur que tout le reste sur la terre. Réputation, propriété, famille ou amis. Tout doit être mis de côté si les droits de Dieu sont compromis. Et la vérité qui touche de plus près à la gloire de la tête n'est-elle pas celle de l'unité de son corps, l'Église? La nation d'Israël était une. Le corps de Christ est un. Et si l'indépendance ne convenait pas en Israël, combien moins dans l'Église. Car de même que le corps est un, et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Or, vous êtes le corps de Christ, et ses membres, chacun en particulier. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Tout vrai croyant sur la surface de cette terre est directement concerné par le fait qu'il est membre du corps de Christ. Cette grande vérité pratique comprend à la fois les plus hauts privilèges et les plus grandes responsabilités. Ce n'est pas simplement une doctrine vraie. C'est un fait vivant, destiné à être une puissance divine dans notre âme. Le chrétien ne peut pas se considérer comme une personne indépendante. Il est lié d'une manière vivante à tous les vrais croyants, à tous les membres de Christ. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. L'Église de Dieu n'est pas une association ou une confrérie. Elle est un corps, uni par le Saint-Esprit à la tête dans le ciel, et tous ses membres sur la terre sont indissolublement liés ensemble. Il s'ensuit naturellement que tous les membres du corps sont affectés par l'état et la marche de chacun. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Il en est ainsi pour les membres du corps humain. Si le pied est malade, la main le sent. Comment? Par la tête. Ainsi en est-il dans l'Église. Si quelque chose va mal chez un individu, tous les membres le ressentent par la tête, avec laquelle tous sont en relation vivante par le Saint-Esprit. En Israël même, où l'unité n'était que nationale, s'il existait quelque mal dans une de leurs villes, tout le peuple en était atteint et affecté. Lorsque Achan pécha, quoiqu'il y eût des milliers de gens totalement ignorants du fait, l'Éternel dit « Israël a péché ». Josué 7, verset 11. Et toute l'assemblée, à cause de cela, subit une humiliante défaite. Quelle immense vérité que celle de l'unité du corps! Quelles conséquences pratiques en découlent, en particulier quant à la sainteté dans notre marche? Combien cela doit nous rendre vigilants sur nous-mêmes, sur nos habitudes, sur tout notre état moral? Que Dieu nous donne d'être soigneux pour ne pas déshonorer la tête à laquelle nous sommes unis, ni attrister l'esprit par lequel nous sommes liés les uns aux autres, ni faire du tort à ceux avec lesquels nous sommes formés en un seul corps.